l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Foix 100.2.
Bonjour à toutes et à tous, il est 12h à la pendule de Présence. Merci d'être fidèle à Radio Présence. Je suis heureux de partager une heure avec vous. C'est le Présence Midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Dans quelques instants, nous allons parler de la rentrée de la mission rurale 65. Ce sera le sujet de la chronique verte de Benoît Guillard. Puis nous parlerons exceptionnellement aujourd'hui bioéthique avec une nouvelle chronique qui fait son apparition sur Radio Présence, une chronique qui sera présentée par Anne-Rose Jankovic en compagnie de Jean-Paul Pérez. Nous le retrouvons aux alentours de 12h20. Nous aurons évidemment les informations régionales qui nous sont proposées tous les jours depuis la rentrée par Éric Leclerc. Puis nous parlerons solidarité avec la chronique solidaire de Anne Deslois. Aujourd'hui, nous ferons connaissance de Anne Soncarieux, qui est membre de la Mission de France depuis les années 80. Et enfin, les écrivains dans nos Pyrénées. Cette émission qui vous est proposée par Catherine Albrecht nous amènera aujourd'hui à la connaissance de Vincent de Chausenc, qui a écrit sur nos beaux sommets. Voilà le sommaire de cette émission. Nous le débutons immédiatement avec les titres des informations en compagnie de Éric Leclerc, toujours bien sûr.
Le feu de végétation qui s'est déclaré vendredi dernier en montagne sur la commune de Bareilles dans les Hautes-Pyrénées persistait encore hier. Ce sont 140 hectares qui ont été détruits depuis une semaine. De nombreux points chauds persistaient en crête sur le secteur nord-est. Le massif est interdit à la circulation en raison des opérations de secours. Les sapeurs-pompiers des Hautes-Pyrénées engagés depuis vendredi ont eu des renforts du S10, du Gard, de Haute-Savoie, de l'Ariège, du Var et des Alpes-Maritimes. Où est passée la pluie? Chez vous a-t-il plu ces derniers mois dans votre région? Tout au long de l'été, les pluies ont manqué dans la quasi-totalité des régions. Le déficit de pluie souvent atteint 40%, voire 50% selon Météo France, à l'exception de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où la pluviométrie a été proche des normales. Ainsi, le nombre de jours de pluie est resté faible dans de nombreuses communes, exemple à Auch, avec 8 jours alors que la normale est de 21 jours.
Merci Éric Leclerc, on vous retrouve à 12h30 pour un point complet sur l'actualité. Dans l'immédiat, voici la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Comme la semaine dernière, j'ai souhaité continuer à cheminer sur cette question entre spiritualité et écologie. Et cette semaine, je suis avec un certain nombre de membres de l'association Mission Rurale 65, une association qui interroge sur le territoire notre manière de croire et d'agir. Et si j'ai fait le choix d'interroger cette équipe, c'est simplement parce qu'ils sont aussi au-delà d'un certain nombre d'actions marquantes sur le territoire, sur le diocèse, ils organisent aussi depuis maintenant 3 ans, c'est la 3e année, le pèlerinage national des agriculteurs. Et donc je suis en présence de 2 membres éminents de cette association, le père Gaby Lagurgue, également Xavier Crespe, qui se présentera aussi, qu'on a déjà vu dans une de mes émissions en témoignage, et qui travaille activement avec une équipe au complet pour ce prochain pèlerinage national des agriculteurs. Bonjour Gabi.
Bonjour. Gabi Lagurgue, prêtre encore au service de l'église diocésaine, plus spécialement, plus localement, disons, dans les baronnies, qui appartient, communauté qui appartient maintenant à la paroisse du pays de Lannemezan.
Merci, bonjour Xavier, même chose, deux mots de présentation.
Eh bien bonjour, Xavier Crespe, effectivement, je dirais que je suis un petit peu un fondu du monde rural parce que j'en suis né, je l'ai aimé, même si des fois ma profession m'en a éloigné, et aujourd'hui je suis très heureux de retrouver ce monde rural, des baronnies, de l'Astarac, de tout le sud du Gers aussi où j'habite, et de travailler ensemble comme aidant pour ce pèlerinage des agriculteurs et tout ce qui touche au monde rural.
Merci. Donc peut-être on va faire deux mots de présentation sur ce qu'est la mission rurale. Moi, ce que j'ai retenu de ce qu'est mission rurale dans ce cadre-là, c'est qu'elle constitue un fil qui relie soin de la terre et soin des personnes qui la travaillent, donc les agriculteurs et le monde rural en général. Plus largement, Père Gabi, mission rurale, aujourd'hui, c'est quoi concrètement?
Pour moi, c'était des mouvements en rural qui se sont mis ensemble pour regarder de près cet espace rural sur lequel nous vivons et sur lequel vivent aussi beaucoup de gens, surtout dans le diocèse ici, puisque la grande partie quand même des habitants des Hautes-Pyrénées vivent sur l'espace rural, même s'ils ne sont pas agriculteurs. Je crois que c'est bien ça qu'il faut bien distinguer. Et dans le monde rural, il y a aussi des agriculteurs, mais de moins en moins, à mon sens, malheureusement. Et la mission rurale, elle a pour objectif justement d'être à l'écoute et aussi au contact de ces gens, de ces personnes-là, parce que tout simplement, chacun de nous aussi appartient à cet espace dans lequel nous vivons. Et au nom de cela, simplement, je crois qu'il est important que cet espace rural vive et qu'on se découvre un petit peu aussi attentive et aussi co-responsable de ce que vivent et de ce que pourront vivre aujourd'hui les gens dans cet espace rural. Agriculteurs aujourd'hui, spécialement peut-être parce que, mais aussi les artisans qui travaillent aussi dans cet espace et qui sont très liés à ce monde rural. Espace rural aujourd'hui en crise, et nous le savons, nous le redirons sans doute un peu tout à l'heure.
Oui, effectivement, cher Père Gabi, ce qu'on peut noter d'une façon claire, c'est qu'effectivement, les fragilités dans notre monde rural, elles sont grandes dans ce diocèse, inévitablement, puisqu'on peut mesurer l'isolement de plus en plus important des habitants, la précarité économique, la difficulté économique, financière immédiate de beaucoup d'exploitations agricoles, le vieillissement bien sûr de la population dans plusieurs communes rurales retirées. Et puis alors j'ai envie de dire aussi la transmission de la foi, puisque inévitablement il semble, vu de notre fenêtre, qu'elle se fait plus discrète, elle est plus fragile. Et justement, mission rurale, c'est-elle donner effectivement, dans ce domaine-là, un objectif, ou plutôt une orientation pour une pastorale rurale?
Je crois qu'il faut bien regarder aussi là où nous vivons et ce que nous vivons et les gens qui vivent. Et il n'y a pas de foi s'il n'y a pas, si on ne croit pas. Et croire aujourd'hui à ce que vit le rural et ce qu'il pourrait vivre autrement, c'est ça qui est important à mon sens. C'est que si on regarde bien, bon, le dérèglement climatique, on ne va pas dire c'est à la faute de qui, la faute de lui, de la faute de l'autre, mais aujourd'hui on est là. On est dans cette situation difficile et il nous faut bouger et agir. Et là, je crois que tout ce qui peut être un peu citoyen et aussi à réaliser collectivement est intéressant et important. Je n'ai pas été très content d'entendre qu'on avait reçu comme invitation de ne pas remplir ou de renouveler tout le temps les piscines, alors que certaines n'avaient pas d'eau. Et voilà. Là, je vais toucher peut-être des domaines un peu sensibles pour certains, mais ça ne fait rien, j'ose le dire. parce que certains se sont privés aussi d'avoir vraiment de l'eau en abondance pour permettre à tout le monde d'en avoir. Et collectivement, je suis dans les baronnies, j'étais content aussi d'apprendre que dans la situation actuelle où à cause du manque d'eau et de pluie, les troupeaux sont descendus ou ont commencé déjà à descendre. Certains sont au moins montés pendant l'été, ont monté du foin dans les estives là-haut pour les nourrir parce qu'il y avait moins d'herbe et moins d'eau. Et la montagne souffre et la montagne pleure de voir cette situation. Et nous aussi, nous pleurons de le voir. Et les agriculteurs aussi pleurent de devoir vendre ou de voir les bêtes qui n'avancent pas, qui ne mangent pas à leur faim, qui ne boivent pas à leur soif. Et là, je crois que chaque fois que des actions collectives ont été réalisées, et je vois dans les baronnies, moi c'est une petite action, hein, les agriculteurs du GVA, du Groupement de Vulgarisation Agricole, se sont retrouvés pour voir comment on pouvait récupérer ensemble du foin. Je crois que j'ai entendu parler au moins de 900 tonnes de foin. Et ça me semble important. C'est pour ça que même s'il y a beaucoup de difficultés, il y a aussi quand même encore des aspects de solidarité qui sont vécus aujourd'hui.
Alors, je vais me tourner vers Xavier. Xavier, deux questions. La première, puisque vous avez rejoint l'équipe Mission Rurale il y a quelques temps, et notamment à l'occasion de l'organisation du premier pèlerinage national des agriculteurs. Donc, Xavier, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette équipe au travail et qu'est-ce qui vous donne envie aujourd'hui d'être vraiment pleinement acteur dans l'organisation du pèlerinage national des agriculteurs ?
Bien, ce qui m'a donné envie déjà, c'est que le terme mission rurale m'intéressait parce qu'il y a vraiment une mission de tout ce que vient de dire le père Gabi. Évidemment, j'y souscris complètement. Il y a le désarroi du monde rural, il y a le désarroi des agriculteurs, bien évidemment. Et puis on arrive à un point où on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à s'en sortir ? Et là, alors c'est peut-être une petite étincelle de foi, mais en définitive, ce pèlerinage des agriculteurs et du monde rural, c'est arriver à rassembler des gens d'une disparité la plus totale, puisque si vous prenez des agriculteurs du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est ou du centre, c'est des situations complètement différentes. Arriver à réfléchir ensemble au-delà du simple phénomène professionnel ou des organisations professionnelles et de dire qu'est-ce qui nous rassemble en définitive. Laudato si était l'élément précurseur il y a 10 ans. Aujourd'hui, on le vit déjà tristement des fois pleinement. Et après, maintenant, savoir se réunir et savoir travailler, penser, se retrouver ensemble.
Alors, j'ai envie de glisser petit à petit vers ce pèlerinage national des agriculteurs et me tourner vers vous, Père Gabi, pour recueillir un peu votre témoignage. Quel est le sens de ce pèlerinage par rapport au monde agricole et au monde rural aujourd'hui? Et deux, par rapport aux deux pèlerinages que vous avez vécus, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs pour qu'ils viennent à ce pèlerinage? Alors, je le dis à mes auditeurs, le pèlerinage national des agriculteurs se tiendra cette année encore, les 27, 28 et 29 novembre à Lourdes, au sanctuaire, bien évidemment. Et vous êtes bien sûr tous conviés, mais on aura le temps d'en reparler.
Je crois important que, depuis toujours, tous ceux qui croient aussi en la vie, et croit en un Dieu auteur et porteur de vie et d'une vie jusqu'à l'éternité. Et croire que Dieu n'abandonne jamais les hommes, jamais. Les hommes qui souffrent, les hommes qui crient, la faim ou la soif, quand on regarde la Bible à traverser la situation de beaucoup de personnes dans le monde entier. Et si on vient à Lourdes, on ne vient pas uniquement chercher uniquement un miracle tout le temps. Par contre, on y vient ensemble. Le pèlerinage, il a cette dimension collective qui est importante à mon sens. On vient ensemble et se découvrir de régions différentes et découvrir les réalités aussi différentes, les situations différentes. Elles ne sont pas les mêmes partout, on ne dit pas tous les paysans. Non, tous les paysans ne vivent pas la même situation. Et c'est bien aussi de s'écouter entre eux, de se rencontrer, de s'écouter, de partager aussi les joies, mais aussi les difficultés, parce qu'il y a aussi des joies. Et s'il y a des rogations dans ce pèlerinage, ça veut dire qu'on vient comme dans le passé, parce que les jeunes ne vont pas comprendre, puisque les rogations, moi je suis un peu ancien, donc j'étais enfant de cœur pour les rogations dans mon village. Donc il s'agissait de parcourir un petit peu le territoire des villages, et puis d'aller bénir les espaces, les prairies, les champs, les bêtes, mais aussi ensuite après les tracteurs, les tracteurs, pour demander aussi que Dieu vienne nous aider. Et ici, dans les baronnies, tous les dimanches, je demande, il y a une raison particulière pour obtenir la pluie, et je crois qu'on a été différemment arrosé, on va dire tout le monde cela, mais la pluie est venue, et c'est une, moi je le considère comme une grâce quand même qui est donnée. Il y a beaucoup de gens encore qui n'ont pas eu cette grâce d'avoir de la pluie. Je crois qu'il faut quand même oser demander. Rogation, ça veut dire demander, mais aussi, il me semble, en venant à Lourdes, on vient aussi remercier, rendre grâce de ce qu'on a réussi à faire, et ça c'est important. Et croire aujourd'hui, c'est croire qu'il est possible avec Dieu, et c'est ça aussi, je crois, que le thème de cette année, l'ange Gabriel avait dit, car avec Dieu, tout est possible.
Alors, on arrive déjà à la fin de notre émission, chers auditeurs, donc bien évidemment, l'objectif était de vous faire connaître et rencontrer un peu plus en profondeur les actions de Mission Rurale 65, et puis de parler de ce pèlerinage national des agriculteurs. Le père Gabi vous a parlé des rogations, parce qu'effectivement, c'est un peu le fil rouge de ce pèlerinage, à partir de ces rogations, donc les demandes faites à Dieu. Et donc, tout au long de ces trois journées, ce sera le déroulement d'un programme autour de ces rogations. Comme on est aussi sur écologie et spiritualité, j'ai envie de poser cette question à vous, père Gabi, parce que moi aussi, je le vis sur le territoire, c'est la diminution du nombre de prêtres sur les territoires ruraux, le ressenti des communautés par rapport à cette situation-là, et comment, puisque nous sommes hommes, femmes de bonne volonté, vous dites souvent prêtres, prophètes et rois, comment on peut, et comment Mission Rurale, par exemple, pourrait effectivement soutenir un certain nombre de réflexions sur ces territoires ruraux autour de ce fait principal qui est cette réorganisation bien sûr nécessaire des prêtres en rural et construire justement une nouvelle communauté.
Je crois justement que si la mission rurale existe, c'est qu'on l'a voulu, mais c'est que comme les premiers mouvements d'action catholique dans les années 30 ont voulu répondre à ce que vivaient réellement et le monde agricole, et le monde ouvrier, et le monde indépendant. Bon, les mouvements sont nés à ce moment-là, y compris aussi les enfants. Mais aujourd'hui, je pense que la mission rurale, elle ose faire la proposition que dans toutes les paroisses, il y ait une possibilité d'avoir ce regard-là. Et je crois que c'est possible aussi à condition que tous les nouveaux curés qui ont été nommés soient aussi accompagnés et qu'ils puissent permettre aussi d'ouvrir un petit peu cet espace rural, puisque cet espace rural à tous ceux qui sont aujourd'hui des volontaires. Il y a du monde qui est à la recherche, des bons qui souffrent encore aujourd'hui, et que pour que l'Église aussi se fasse proche. Je l'ai dit souvent, enfin notre évêque nous l'a dit dans sa lettre pastorale, il faut vivre la proximité, mais aussi vivre la co-responsabilité, et ça c'est important. Et je crois que si on peut arriver en aidant, si on peut arriver à mettre en route une petite mission rurale dans chaque nouvelle paroisse, mais ça peut être intéressant, je crois.
Le mot de la fin sera pour Xavier, par rapport justement à cette réflexion partagée par le père Gabi. Comment vous la recevez? Comment vous voyez les choses sur votre paroisse?
Ben, je pense que les pôles de mission rurale, ils existeront vraiment quand il y aura une prise de conscience des laïcs, chrétiens ou moins chrétiens, de dire on va travailler tous ensemble, autour des prêtres certes, mais aussi autour des personnes consacrées, et travailler tous ensemble pour voir qu'est-ce qu'on fait comme micro-réalisation dans nos petites régions pour s'y trouver mieux, pour faire mieux et comprendre le monde qui nous attend.
En tout cas, merci, c'était très intéressant. Merci à vous, merci à vous, Père Gaby. Et puis, chers auditeurs, bon, j'aurai l'occasion de revenir pour vous rappeler cette date du pèlerinage national des agriculteurs. Mais en tout cas, c'était important pour moi qu'il y ait ce regard et puis cette écoute autour de ce que veut entreprendre Mission Rurale sur le diocèse jusqu'à ce pèlerinage. Merci infiniment à vous deux et à bientôt.
Et merci à vous, Benoît Guillard, pour ce rendez-vous, donc, qui est d'ores et déjà noté sur mon agenda, en tout cas en ce qui me concerne, fin novembre pour ce pèlerinage des agriculteurs.
Présence à Saint-Bertrand-de-Comminges, 94.1.
Une petite nouvelle chronique fait son entrée dans la grille de présence. C'est une chronique bioéthique que nous propose Anne-Rose Jankovic tous les 15 jours en compagnie de son invité Jean-Paul Pérez. Voici la première chronique.
Bonjour docteur Jean-Paul Pérez.
Bonjour Anne-Rose.
Nous sommes ravis de vous accueillir au micro de Radio Présence. Nous allons avec vous lancer un nouveau rendez-vous que les auditeurs pourront entendre durant toute cette année radiophonique, cette chronique bioéthique. Tous les 15 jours, nous allons aborder avec vous un sujet bioéthique pour bien comprendre de quoi il s'agit, les enjeux, la loi qui cadre la bioéthique, les actualités aussi liées à la bioéthique. Merci d'avoir accepté ce challenge. Peut-être que le premier rendez-vous peut être consacré justement à faire connaissance, docteur Jean-Paul Pérez. Certains de nos auditeurs vous connaissent, d'autres un petit peu moins. Qu'est-ce qui vous a conduit à être un peu notre expert en bioéthique ?
Tout d'abord, merci Anne-Rose de m'avoir invité. Le terme d'expert, c'est quand même un peu pompeux. Moi, ce qui m'importe, c'est de parler de sujets importants et qui concernent finalement tout un chacun, même si on ne s'en rend pas bien compte. Par exemple, le pape Léon XIV publie une encyclique sur l'intelligence artificielle. En fait, on baigne dedans déjà, mais on se pose jamais la question comment ça se fait que, enfin, quelles sont les implications, etc. Alors, pourquoi est-ce que je m'intéresse à ces sujets-là ? Parce que j'ai été médecin hospitalier, j'étais chef d'un service de réanimation il y a plusieurs années maintenant, et j'étais comme beaucoup de médecins, comme beaucoup de mes confrères, très occupé, voire même très très occupé souvent. Peu d'espace pour la réflexion personnelle sur comment bien travailler, comment être vraiment en adéquation avec des valeurs, des choses comme ça, en dehors des valeurs techniques, ce que j'appelle la technique, c'est-à-dire
qu'on vous apprend pas, on vous apprend pas à aborder ces questions-là dans la formation.
On aborde un peu, si vous voulez, mais c'est un peu un vernis, évidemment, parce que les études de médecine sont déjà très très longues, faut caser une réflexion de fond dans des études très très longues, c'est compliqué, quoi, puisque c'est beaucoup d'heures, etc. Dans mes études de réanimation, c'est pareil, on en a un petit peu parlé, mais c'est un petit peu. Et finalement, comme beaucoup de mes confrères, moi j'étais avec une réflexion personnelle ou un peu partagée, en fait une opinion. Pour moi, c'était plutôt de l'ordre de l'opinion. Et un jour, je me suis quand même posé la question sur la fin de vie. Alors, la fin de vie en réanimation, c'est pas la fin de vie en cancérologie, c'est pas la même chose. Mais il y a quand même des gens qui meurent en réanimation, il y a quand même des familles qui viennent, etc. Et avec mes collègues, avec le personnel, on se disait bon, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc ça c'était un premier questionnement, quoi. Comment faire au mieux.
C'est-à-dire, c'est pas un événement en particulier qui vous a poussé à vous poser ces questions-là. C'est plutôt l'exercice de votre métier dans la durée qui vous a amené.
C'est l'exercice de mon métier dans la durée, effectivement. Et aussi, un jour, j'ai participé à la première université de la vie d'Alliance Vita. Et pour moi, c'était un peu comme un retournement, en fait, de me rendre compte de la profondeur de certains sujets, des implications de certains sujets, mais c'était surtout une sorte de retournement. Moi, j'emploie le terme de conversion bioéthique. Il y a des gens qui parlent de conversion écologique, de conversion spirituelle. Et moi, j'ai vécu une sorte de conversion bioéthique parce que je me suis retourné, entre guillemets, et de m'interroger sur comment faire mieux, mais mieux non pas à partir de mes propres opinions, à partir de mes propres valeurs, de mes propres idées, mais comment faire mieux à partir de quelque chose d'un peu plus transcendant, en fait.
Ça a changé votre manière de travailler ?
Ça a changé, oui, radicalement, ma manière de travailler.
Par exemple ?
Sur certains points. Eh bien, par exemple, il y avait toujours ces questions de la mort du patient en réanimation. Et du coup, un exemple concret, j'ai réuni tous les personnels, mes collègues médecins, etc. Et je leur ai dit, voilà, il faut qu'on puisse proposer le mieux pour les patients, évidemment. Ça, c'est sur le plan technique, mais aussi pour les familles. Comment intégrer les familles, en fait, non pas à la prise en charge, mais comment mieux les intégrer dans le séjour du patient en réanimation.
Qu'est-ce que ça change dans une équipe de soignants, de professionnels, quand on aborde les questions techniques en se posant d'abord la question bioéthique ?
En fait, je ne l'ai pas formulé comme ça. J'ai proposé à tout le monde que nous ayons une réflexion commune, en fait, et un espace de parole et de partage, surtout. Donc, on aurait commencé par organiser des réunions, de savoir qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, enfin, des choses comme ça. Et puis, par exemple, ça a débouché concrètement sur le fait d'autoriser les familles à venir voir leurs proches en réanimation 24 heures sur 24. En fait, on a été un des premiers services en région parisienne à autoriser la visite 24 heures sur 24. Mmh. Non pas des horaires, parce que c'est très con. À l'époque, c'était très compliqué, pas de visite le matin, de telle heure à telle heure, etc. Et en fait, après avoir lu, après avoir vu d'autres expériences, on a autorisé ça. C'était aussi comment prendre mieux en charge les familles. Et puis surtout, c'est comment laisser la vie, en fait, s'éteindre le mieux possible. On parle de soins palliatifs beaucoup en ce moment, évidemment. Les soins palliatifs, c'est quelque chose de très commun, habituel en cancérologie. Mais nous avons réfléchi une manière de vivre des soins palliatifs en réanimation. Mmh. Et c'est-à-dire, on a eu une réflexion, en fait, sur quel type de soins on donnait, quel type de traitement, etc. Et on a un peu stratifié, si vous voulez, catégorisé le type de soins. Par exemple, il y avait tout ce qui était les soins de confort, ce qu'on appelait, nous, les soins de base. Et puis après, il y avait les thérapeutiques actives ou pas. Et du coup, c'est jusqu'où aller, en fait, rester dans une proportion raisonnable pour le patient. Voilà. Et donc, c'est amorcé toute cette réflexion-là. Et je me suis rendu compte, en fait, que ça correspondait beaucoup à du bon sens, en fait, des soignants, des infirmières, des aides-soignants, etc. Des bons sens, c'est-à-dire que, par exemple, l'hydratation, la nutrition, le soin, ce que j'appelle, moi, le soin de base, les toilettes, les massages, les choses comme ça, eh bien, c'était quelque chose qui paraissait normal pour tout le monde. Normal de le donner et de continuer à le donner, quel que soit l'état du patient.
C'est intéressant ce que vous nous dites, docteur Jean-Paul Pérez, parce que du coup, on comprend que la bioéthique, c'est pas seulement une réflexion philosophique, qu'elle se traduit par des gestes très concrets qui peuvent paraître basiques, mais qui sont le quotidien des soignants.
Absolument.
Et des aidants,
oui.
Enfin, de toutes les personnes.
Absolument, oui, oui. Ce n'est pas une réflexion éthérée hors sol,
ouais,
en fait. C'est quelque chose qui doit guider l'action quelque part, vous voyez, et qui c'est pas toujours que des ce sont des principes de base, je dirais, mais on a toujours besoin d'avoir une loi générale pour traiter des cas particuliers et non pas de transformer chaque cas particulier en une loi, en fait. Et le principe, on a posé des grands principes de notre service pour la prise en charge des patients. Et par exemple, j'ai organisé des réunions. On avait des réunions, on appelait ça les réunions d'éthique, où Il avait besoin de discuter, par exemple, le cas de la malade. Et là, tout le monde était invité. C'est-à-dire que c'était pas uniquement une affaire médicale, mais les infirmières étaient invitées, les aides-soignants, y compris les secrétaires qui faisaient l'accueil des familles. Parce que, on s'est bien rendu compte, et on le sait d'ailleurs, même les gens qui faisaient le ménage dans le service étaient invités à ces réunions, parce que tout le monde avait un mot à dire sur le malade, en fait. Et surtout sur la famille, enfin, etc. Et c'était des réunions passionnantes, en fait.
C'est pour ça que vous avez accepté de faire cette chronique bioéthique durant toute l'année sur Radio Présence, Jean-Paul Pérez, pour justement dire à nos auditeurs, ça vous concerne aussi, c'est pas, vous n'êtes peut-être pas médecin, mais la bioéthique, ça vous regarde aussi.
Oui, ce qu'on appelle la bioéthique, oui, ça concerne tout le monde, puisque, en fait, le plus important, c'est tout ce qui tourne autour de la vie, en fait, de la vie humaine. Et tout le monde a une vie, en fait. Comme tout le monde a un corps, tout le monde a une matière grise, tout le monde a une conscience. Et en fait, c'est ça qui est... ce sont des notions qui sont mobilisées, qui sont tous les jours, en fait. On peut ne pas être expert dans un domaine, mais au moins avoir conscience de ce qui se passe, et puis être mobilisé sur le plan de la prière, par exemple, sur le plan de la réflexion. Je sais que pour mes confrères soignants, c'est très difficile de prendre des temps d'arrêt pour s'intéresser à autre chose, pour essayer de réfléchir. Enfin, moi, j'étais comme ça avant, donc je comprends d'autant mieux qu'on est pris dans une espèce de moulin, vous voyez, un peu comme l'hamster dans une qui tourne, voilà, parce que il y a plein de choses à faire, on est très pris et ça demande un effort. Alors effectivement, ça demande un effort au début, mais cet effort est important, je pense, parce que on a tous au fond de notre conscience quelque chose qui nous dit comment bien faire, en fait, comment faire au mieux, vous voyez. On n'est pas totalement hors sol.
Et vous allez nous y aider, en tous les cas vous allez nous accompagner au fil de ces chroniques, Jean-Paul Pérez. On vous retrouve dans 15 jours, d'ici là rendez-vous sur la page catholique65.fr/bioéthique, une page sur laquelle on peut lire vos articles et vos réflexions sur la bioéthique. Merci Jean-Paul.
Merci Anne-Rose.
Une émission que nous retrouverons jeudi en 8, c'est-à-dire jeudi dans 14 jours. Dans quelques instants, en revanche, nous retrouverons Éric Leclerc pour les informations de la mi-journée, juste après Open.
Avec un si, c'est si facile de dire sans faire pour taire les cris. Avec un si, une seconde changerait le monde, changerait la vie. Alors allez bien. Le chemin de fer, que demain sera mieux. Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu de croiser nos chemins de fer, que demain sera mieux, que demain sera mieux.
Vendredi 11 septembre 2026, c'est 12h34 en plein cœur de ce Présence Midi. À suivre la chronique solidaire d'Anne Deslois et puis la chronique littéraire de Catherine Albrecht avec Vincent de Chausanque. Voilà le programme qui nous attend. Voici les informations de la mi-journée.
Alors,
Bonjour, le feu de végétation qui s'est déclaré vendredi dernier en montagne sur la commune de Bareil dans les Hautes-Pyrénées persistait encore hier. Ce sont 140 hectares qui ont été détruits depuis une semaine. De nombreux points chauds persistaient en crête sur le secteur nord-est. Le massif est interdit à la circulation en raison des opérations de secours. Les sapeurs-pompiers des Hautes-Pyrénées engagés depuis vendredi ont eu des renforts des 10 du Gard, de la Haute-Savoie, de l'Ariège, du Var et des Alpes-Maritimes. Où est passée la pluie chez vous? A-t-il plu ces trois derniers mois dans votre région? Tout au long de l'été, les pluies ont manqué dans la quasi-totalité des régions. Le déficit de pluie a souvent atteint 40%, voire 50% selon Météo France, à l'exception de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où la pluviométrie a été proche des normales. Ainsi, le nombre de jours de pluie est resté faible dans de nombreuses communes. Exemple à Auch, avec 8 jours, alors que la normale est de 21 jours. Signature d'une convention de partenariat qui lie le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées et EDF au Fonds de solidarité pour le logement. Cette convention définit les modalités de travail entre EDF et la collectivité tout en fixant les conditions de participation de l'énergéticien à ce fonds. En 2026, EDF a décidé de porter sa contribution à 100 000 euros. Le Fonds de solidarité logement permet aux ménages en difficulté d'accéder à un logement ou de s'y maintenir. Il peut couvrir le dépôt de garantie, le premier loyer, l'ouverture des compteurs, des dettes de loyer ou encore des factures d'énergie, d'eau et de télécommunications. Soliguide.fr se déploie en Ariège. Où trouver une distribution alimentaire? Un travailleur social, ce sont autant de questions que se posent les personnes en situation de précarité. Pour répondre à leurs besoins du quotidien, l'association Soninium développe Soliguide.fr, un guide numérique qui rassemble l'ensemble des services à destination des personnes en difficulté. La plateforme est désormais accessible pour le territoire de l'Ariège. La plateforme Soliguide.fr est gratuite et accessible à tous. Les structures sociales répondant à des besoins de première nécessité ou des accompagnements sociaux professionnels sont référencés en détail. Déployée en 2025 sur le territoire de l'Ariège, la plateforme recense aujourd'hui plus de 600 services. Les Thermes de Bagnères-de-Luchon renouvellent leur engagement pour Septembre en or. Pour la deuxième année consécutive, les Thermes se mobilisent en faveur de la lutte contre les cancers pédiatriques. Nocturne solidaire, vente de bracelets et de rubans, collecte de dons tout au long du mois de septembre viendront soutenir la recherche et sensibiliser le public à cette cause essentielle. Temps fort de cette édition 2026, une nocturne solidaire sera organisée aujourd'hui de 17h à 21h à l'espace de détente aquatique Ressourcez-vous des Thermes de Bagnères-de-Luchon. L'intégralité des entrées sera reversée à l'antenne Occitanie de l'association Enfants Cancer Santé.
Merci Eric Leclerc. Prochain rendez-vous de l'information à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Dans les médias, nous retrouvons Anne Deslois et sa chronique solidaire.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, notre émission Solidairement Vôtre s'intéresse à une valeur essentielle de notre société, qui est la solidarité. Que signifie être solidaire lorsqu'on est chrétien? Aujourd'hui, notre invitée est Anne Soncarieux. Bonjour Anne.
Bonjour.
Vous êtes engagée avec la Mission de France depuis déjà plusieurs années. Vous allez nous raconter ça. Je crois que même ça date d'une rencontre à Lourdes en 1981. Alors, merci d'être avec nous. Je voudrais, avant qu'on arrive plus dans les actions concrètes mises en place par des membres de la Mission de France pour vivre la solidarité dans la vie concrète, voir avec vous déjà, Anne, qu'est-ce que la Mission de France, un petit peu d'historique, et puis qu'est-ce qui a amené, à un moment donné, l'Église à s'ouvrir de cette façon que la Mission de France propose?
Alors la Mission de France, certains en ont peut-être entendu parler, et d'autres pas du tout, parce qu'on n'est pas toujours très connus. Ça a commencé en 1941, avec un cardinal, le cardinal Suard, qui s'est rendu compte que la France devenait un lieu de plus en plus déchristianisé. Et il s'est interrogé justement sur toutes ces populations que l'Église ne rejoignait pas ou qui ne connaissaient pas le Christ. Et il s'est dit, il faut former des prêtres pour la mission. Donc il a commencé par fonder un séminaire pour former des prêtres.
On est en quelle année à peu
1941.
Près D'accord.
Voilà. Et là, donc, il y a eu des prêtres qui se sont formés et qui sont partis en équipe. Et puis, ils se sont rendus compte que pour rejoindre les gens, eh bien, il fallait les rejoindre sur le lieu où ils étaient. C'est-à-dire dans leur travail, dans les cités où ils habitaient. Donc, souvent, ces prêtres sont passés au travail, dans le monde ouvrier, mais aussi le monde agricole, pour pouvoir rencontrer les gens et témoigner de la bonne nouvelle avec eux.
En fait, si je comprends bien, dès le début, les prêtres engagés dans la mission de France, ils ont eu le souci vraiment de faire église avec les gens, donc dans leur milieu de vie.
Tout à fait. Et puis le fait de partager le travail, ils portaient les mêmes questions que les travailleurs qu'ils rencontraient. Ils entendaient aussi leurs questions et l'Église se rapprochait, j'allais dire, de toutes ces populations et ils prenaient les solidarités avec eux, avec toutes ces personnes.
Et est-ce que ces prêtres qui étaient de la mission de France vivaient en communauté ou certains étaient seuls comme des simples célibataires?
Alors nous, on parle beaucoup d'équipe. C'est-à-dire qu'ils avaient des temps de partage régulier et avec un vivre ensemble, ils habitaient le plus souvent ensemble, même s'il y en a quelques-uns, peut-être pour des circonstances particulières, étaient à tel ou tel endroit, mais ils n'étaient pas envoyés seuls pour partager cette vie-là. Dans le travail, ils n'étaient pas tous dans les mêmes lieux de travail, mais pour l'équipe, ils étaient envoyés à la demande des évêques des autres diocèses. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui décidaient tout d'un coup, on va aller s'installer là. C'est des évêques de diocèse qui disaient, nous, on a besoin d'avoir une équipe de la Mission de France pour venir partager et témoigner de l'Évangile là où on est.
Alors, Anne, depuis 1941, on se rend compte qu'il y a eu une grande évolution, bien sûr, de la société, de l'Église, de la façon aussi où les chrétiens sont engagés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qu'est la Mission de France aujourd'hui ?
Voilà. Alors, je vais continuer un tout petit peu dans l'histoire. C'est que très, très vite, il y a eu des laïcs, en particulier des femmes, qui se retrouvaient dans cette manière de rejoindre les gens, d'être solidaires avec les gens. Donc, ils ont partagé la vie des équipes. Mais ça s'est vraiment concrétisé en 2002, où là, les laïcs ont été reconnus dans les équipes et ont été envoyés avec les prêtres en équipe dans des lieux et des milieux sociaux très divers. Il y a eu dans le monde de la prison, il y a eu dans le monde agricole, il y a eu par rapport aux nouvelles technologies. Voilà, donc c'était des équipes prêtres, diacres et laïcs qui étaient envoyés ensemble.
Et vous-même, Anne, vous avez fait partie d'une équipe Mission de France ?
Alors, moi j'ai découvert la Mission de France à Lourdes, donc en 81. Et je l'ai découvert à un âge où j'étais jeune. Et donc, j'ai participé aux activités du service jeune qui cherchait à faire découvrir à des jeunes cette intuition de la Mission de France de rejoindre les gens pour leur annoncer donc la bonne nouvelle. Donc, j'ai commencé à vivre avec le service jeune. Et ensuite, je me suis dit, mais comment, moi, je ne veux pas couper de ce que je découvre. Et je me suis rendu disponible pour rejoindre une équipe là où la Mission de France pouvait avoir besoin. Et j'étais envoyée à ce moment-là à Gennevilliers, dans la banlieue nord de Paris, pour être présente aux jeunes des cités, qui étaient vraiment un monde que je ne connaissais pas au départ, mais où j'ai beaucoup, beaucoup découvert.
Professionnellement, vous étiez dans l'enseignement.
Alors, j'étais professeure de technologie en collège.
Ce qui vous donnait d'ailleurs une grande proximité avec ces jeunes vers lesquels vous étiez envoyé aussi par la Mission de France.
Tout à fait, surtout que j'étais professeur de technologie dans un collège de cité qui n'était pas très différent des cités que je rejoignais à Gennevilliers après pour mes engagements.
Donc on entend bien que la Mission de France est présente dans des lieux où l'Église est parfois peu visible. Donc, vous avez parlé des quartiers populaires, des entreprises, mais aussi du monde des campagnes, des prisons. Qu'apporte cette proximité avec les personnes ? Est-ce que vous avez, par exemple, un souvenir, une rencontre qui illustre bien cette présence que vous avez, qui est une présence discrète, mais essentielle ?
Moi, je dirais d'abord qu'être présent dans ces lieux, on n'y va pas avec tout un arsenal de choses à affirmer, de choses à dire. On est d'abord là pour écouter, rencontrer et écouter. Et c'est écouter ce que les gens nous disent aussi de leurs questions, de leur foi ou de leur difficulté à croire ou de leurs doutes. C'est ça aussi qui va nourrir notre foi et qui fait avancer aussi dans une réflexion, dans une manière d'annoncer Dieu qui soit à l'écoute de ce que vivent les gens. Moi, je ne crois pas, même par rapport aux jeunes des cités, être arrivé avec un étendard « je suis chrétienne », mais eux, qu'est-ce qu'ils vivent ? Quelles sont leurs difficultés ? Quelles sont leur solidarité aussi entre jeunes qu'ils avaient envie de vivre ? Et comment là-dedans, on peut peut-être des fois affirmer, donner quelques éléments d'un chemin ce que j'ai découvert de la foi, mais qui peut aussi leur parler à eux.
Est-ce qu'il y a une figure, enfin une des figures spirituelles qui que vous mettez souvent en valeur au niveau de la Mission de France et qui vous parle aussi à vous, Anne, particulièrement?
Alors moi, me vient en tête très vite la figure de Madeleine Delbrel, donc cette femme spirituelle qui était dans la banlieue sud de Paris, à Ivry-sur-Seine, et qui a beaucoup témoigné sur comment vivre la foi dans une vie ordinaire. Voilà, avec l'ordinaire de la vie, en disant c'est là que qu'est le lieu de notre sainteté, c'est là que Dieu nous attend. Peut-être pas partir au bout du monde, faire des grandes choses, mais être dans cet ordinaire de la vie. Donc cette figure de Madeleine Delbrel m'accompagne, et elle dit aussi souvent la parole de Dieu n'est pas extérieure à nous, elle est au cœur de nous. C'est, on l'emporte pas au bout de la terre, mais comment est-ce qu'on la vit au quotidien?
Alors justement, aujourd'hui, quelles sont peut-être les situations de fragilité qui vous interpellent le plus? Alors je dis vous, Anne, ou en général des membres de la Mission de France, pour que vous puissiez nous dire concrètement les engagements que les uns les autres portent aujourd'hui face aux difficultés que certains de nos contemporains connaissent.
Alors dans ce qui me vient à l'esprit, il y a... Chacun peut être engagé à titre personnel dans telle ou telle association, tel ou tel lieu, mais à la Mission de France, on va être envoyé sur des champs de mission en équipe. Donc il faut qu'on retrouve aussi en équipe cet envoi, cet axe de mission. Il y a plusieurs équipes, je vois, qui vivent des solidarités avec les migrants. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est, depuis une quinzaine d'années, s'est développé beaucoup. Il y a aussi d'autres équipes qui sont assez attentives au monde carcéral. Donc avec des gens qui sont soit aumôniers de prison, mais aussi qui vont animer des messes, qui vont rencontrer des familles, voilà. Donc et ça, c'est, on voit qu'à travers la France, puisque les équipes Mission de France sont assez dispersées en France, il y a ces axes-là peuvent se retrouver plusieurs fois quand même. Et puis le monde des jeunes aussi, voilà. Donc cette présence aux jeunes, plusieurs portent un peu ce souci.
Nous vivons dans une société qu'on dit de plus en plus individualiste. Est-ce que vous avez l'impression, Anne, qu'il est devenu plus difficile d'être solidaire dans la société d'aujourd'hui? Quelles sont un peu les évolutions que vous avez ressenties, que vous voyez depuis le temps où vous-même vous avez été engagé auprès du monde des jeunes en particulier?
Oui, alors moi je pense effectivement qu'il y a des difficultés qui viennent aussi de la société elle-même, c'est-à-dire que quelquefois on rêve de pouvoir avoir des gestes qui amènent les jeunes à se sortir de situations d'enfermement, et en même temps on n'a pas les moyens de les aider à ça, que ce soit des moyens financiers, des moyens humains, des ressources humaines qui accompagnent. C'est devenu difficile, mais il faut pas désespérer, parce que il y a beaucoup de petits signes qu'on ne voit pas. Et je trouve qu'on a une de nos responsabilités, c'est peut-être aussi d'être veilleur de ces signes, de gestes entre jeunes qui vont se rendre solidaires parce qu'il y a un tout d'un coup qui est en difficulté dans un quartier, d'accueil de d'autres personnes quand un camp de Rome est démonté, par exemple. Voilà. Donc il y a des gestes qui existent, mais on n'en parle pas beaucoup, et c'est ça qui est dommage.
Et c'est bien de nous parler justement de ces signes d'espérance que vous-même vous en rendez compte. Dans différents engagements, quoi. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous aimeriez adresser aux auditeurs de Radio Présence aujourd'hui?
De par la part de la Mission de France, c'est de, j'allais dire, d'abord peut-être un message de paix, c'est-à-dire aujourd'hui on se rend bien compte qu'il faut vivre en ayant cette paix au cœur, et c'est en n'enfermant pas l'autre dans ce qu'il est, mais toujours croire qu'il peut avoir un chemin devant lui. Et moi, il y a une phrase qui peut être importante, qui est « Je suis venu pour qu'ils aient la vie ». C'est-à-dire que toutes nos actions, c'est peut-être dans ce but-là. Enfin, je crois que c'est le Christ qui nous invite à le suivre pour que le monde ait la vie aussi.
Oui, donc on entend bien que c'est une parole de l'Évangile qui vous accompagne dans le quotidien de votre engagement. Oui. Merci beaucoup, Anne Sancarieux. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes, depuis 6 ans où vous étiez, puisque votre mandat s'est terminé fin août, la déléguée générale de la Mission de France. Un grand merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis on va souhaiter que cette émission, elle nous encourage chacun à notre place à faire vivre une solidarité simple, concrète et fraternelle, eh bien, à l'exemple de ce que vous nous avez dit de la Mission de France. Merci Anne, belle mission.
Merci à vous.
Et merci à Anne Deslois de nous avoir permis de découvrir cette association Mission de France. Je vous laisse en musique avant de retrouver Catherine Albrecht qui nous parlera de Vincent Chosang aujourd'hui, qui a cavalé dans nos belles Pyrénées, juste après Waitersville, Just the Two of Us.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Dans la cité mariale, 96.
Du Pays Basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance ou leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Vincent de Chausanc. Pierre Barraud, surnommé le guide des sommets, était issu d'une famille de porteurs et de guides bien connus à Luchon. Le 11 août 1824, il accompagne deux jeunes élèves ingénieurs des mines, Édouard Blavier et Édouard de Billy, dans l'ascension de la Maladetta. Il connaît bien cette course, puisque c'est lui qui a guidé Friedrich Barraud lors de sa première ascension en 1817. Lorsqu'ils arrivent sur le haut glacier, les trois montagnards sont arrêtés par la Rimaille, énorme crevasse entre le glacier et la crête rocheuse qui mène au sommet. Il y a quelques ponts de neige, on sonde, on cherche un passage. Ce jour-là, Barraud n'a pas pris de corde. Il s'avance sur un pont qu'il croyait assez solide et qui soudain cède, l'entraînant dans la profonde crevasse. Le glacier ne rendra son corps qu'en 1931. Ce drame eut à l'époque un énorme retentissement à Luchon et détourna les guides des approches sur le glacier. Il faudra attendre 1842 pour voir des hommes au sommet de l'Aneto. Vincent de Chausanc nous livre ici la déposition des jeunes alpinistes lors du procès verbal établi après ce drame. Vincent de Chausanc est un pyrénéiste, auteur du remarquable « Les Pyrénées » ou voyage pédestre dans toutes les régions de ces montagnes, depuis l'océan jusqu'à la Méditerranée. Après des études à la prestigieuse abbaye-école de Sorèze, Officier topographe, il donnera son nom à un pic du massif de Vignemale. Le 11, à 5 heures du matin, nous commençâmes à gravir avec Barreau seul, le fils étant resté pour garder les chevaux. À 8 heures, nous atteignîmes la moraine du glacier et nous déjeunâmes derrière un gros bloc, où nous laissâmes les restes de nos vivres. Barreau redoutait cette voie à cause des pierres qui roulaient d'en haut, mais il parlait avec confiance des crevasses. Arrivés à l'origine de la moraine, nous chaussâmes les crampons et nous entrâmes sur le glacier d'abord à nu, ensuite couvert d'une neige où nous nous enfoncions jusqu'à la cheville. Arrivés à peu de distance de la crête, nous fûmes arrêtés par une crevasse énorme qui nous parut horriblement grande en y jetant les yeux avec la précaution de nous faire tenir par derrière. Nous cherchâmes vers la gauche où la neige faisait voûte, un moyen de la franchir. Mais un de nous, y ayant enfoncé toute la longueur de son bâton, en prévint Barreau qui, avançant encore à gauche, où il sonda lui-même avec le sien. La neige lui ayant paru assez solide, il y pose un pied et porte le second en avant, aussi loin qu'il peut, croyant laisser la crevasse entre ses jambes. Le malheureux était dessus. Sitôt qu'il soulève le premier pied posé pour se porter en avant sous l'autre, il se fait dans la neige un trou où il s'abîme. Nous l'entendons aussitôt crier « Grand Dieu, je suis perdu, je me noie !» N'ayant nul moyen de le secourir, l'un de nous s'élance pour aller chercher le fils et un peu de corde qu'il avait. Celui qui resta auprès du trou entendit pendant 2 minutes crier toujours « Grand Dieu, je suis perdu !» Et un peu après, « Grand Dieu, je m'enfonce !» Puis il n'entendit plus rien. Il l'appela, point de réponse. Il courut alors rejoindre son camarade et ils remontèrent au glacier avec le fils et le peu de corde qu'ils avaient. Arrivés à la crevasse, ils appellent encore, mais en vain. Persuadés que Barreau était mort, ils redescendent, exténués de fatigue et de douleur. Ils arrivent à l'hospice à 10h30 du soir, d'où ils envoient de suite chercher les autres fils Barreau, qui arrivèrent à 5h avec des hommes et des cordes. Sous la conduite du plus jeune, ils remontent à la Maladetta pour tâcher de retrouver au moins le corps de leur malheureux père, et les élèves des mines reprennent le chemin de manière. Les trois frères, arrivés à la crevasse, se convainquirent de la mort de leur père, qui ne répondit à aucun cri, et de l'impossibilité de parvenir jusqu'au corps qui s'était enfoncé dans l'eau dont tout le fond de la cavité était rempli. À travers les mots, le regard, inspiré par nos belles montagnes pyrénéennes, nous avons pu apprécier le talent de Vincent de Chausanques. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
Merci Catherine Albrecht pour ces petits voyages que vous nous permettez de réaliser toutes les semaines sans quitter notre fauteuil. Vous ne quittez pas votre chaise, vous êtes bien à table. Très bon appétit. Dans quelques instants, le journal de Radio Vatican. À 15h30, le chapelet. Méditez pour toutes vos intentions en direct de la grotte du sanctuaire de Lourdes. Très bel après-midi à vous tous.
Présence dans le Lauragais, 97.9.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Dans un peu moins d'une heure, le temps va s'arrêter à New York, un quart de siècle après la pire attaque terroriste.